Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Le sujet du jour, ce sont évidemment ces gilets jaunes avec une mobilisation inédite, polymorphe, difficile à comprendre et précisément pour tenter de percer les secrets de ces gilets jaunes. Je vous ai demandé, Béatrice Gibelin, de venir dans ce studio. Vous êtes géographe, vous êtes directrice de la revue Hérodote, qui est probablement l'une des meilleures revues de géographie française. Vous connaissez par conséquent très bien le territoire. Alors lorsqu'on lit les différents reportages qui sont consacrés aux gilets jaune, c'est vraiment une liste de motifs de colère. Alors je lis par exemple dans le reportage de La Croix hein, de ce matin qui a été fait à Vittel dans les Vosges, il y a la CSG, les péages, les contrôles techniques sur les véhicules, des contrôles techniques qui ont été alourdis récemment, l'obligation donc des 11 vaccins, les 80 km/h sur la route. Et lorsqu'on essaye d'entendre ces gilets jaunes, il y a différents micro-trottoirs qui ont été faits. On va en écouter un et vous allez nous dire ce que vous en pensez, Béatrice Gibelin.
Parce qu'on en a marre qu'on nous prenne pour des vaches à lait, de payer, tout le temps payer, alors que les héros, là, ils roulent en grosse bagnole avec chauffeur et puis nous assassinent. C'est du racket, c'est de l'harcèlement.
On va tout bloquer. Centres commerciaux, on va. S'il faut bloquer les autoroutes, on va les bloquer, on va tout bloquer.
Pas sûr que ça marche, mais il faut taper du poing sur la table de temps en temps.
Comme on a bien insisté avec tout le monde, pas de débordement, pas de cow-boy avec nous, pas de trucs comme ça. Et surtout, laisser passer tous les services de secours.
Béatrice Gibelin, qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'il y a une réelle colère pour une partie de la population française. Faut rappeler toujours un chiffre. Hein. Le salaire médian, c'est 1 700 euros. C'est-à-dire qu'il y a 50% des Français qui sont en dessous de 1 700 euros et 50% des Français qui gagnent plus de 1 700 euros par mois. Faut bien voir que vivre aujourd'hui avec salaire de 1 700 euros, même en province, je parle pas de Paris bien sûr, c'est difficile. Alors quand on a deux salaires, on s'en sort. Mais il est évident qu'il faut, pour beaucoup de gens, compter. Et qu'il faut compter tout le temps. Et que cette idée de... Et la voiture, c'est très important. C'est pas seulement pour une question de mobilité. Si 8 Français sur 10, 8 ménages sur 10 ont des voitures, et parfois 2 voitures, c'est représentatif d'un statut, du plaisir aussi de se déplacer et de circuler. Donc, il y a un coût pour la voiture que très souvent d'ailleurs les Français sous-estiment. Si on leur disait « votre voiture vous coûte plusieurs milliers d'euros par an », ils auraient tendance à le sous-estimer. Mais là, quand ils mettent l'essence dans leur ou diesel dans leur réservoir, ils voient à la pompe les chiffres se démultiplier. Donc il y a c'est un révélateur incontestablement d'une forme de colère avec un sentiment d'injustice. Et que en plus, cet argent qu'on leur cette taxe qu'on leur met, est-ce qu'au moins va-t-elle aller à l'amélioration de la lutte pour défendre moins de pollution, une meilleure... Ils n'en sont pas sûrs. Ils ont l'impression, si vous voulez, que c'est facile d'augmenter les taxes. On le fait un peu comme ça. Et puis c'est toujours nous. C'est toujours sur nous les petits que ça tombe. Et ça, on voit bien, si vous voulez. On est quand même dans une base d'un discours populiste qui touche aux élections 20% des électeurs. Marine Le Pen, aujourd'hui, est d'une tranquillité inquiétante.
En tout cas, dans Le Parisien, aujourd'hui, elle disait qu'elle avait parmi ses électeurs beaucoup de gens qui se retrouvaient dans la mobilisation des gilets jaunes. Donc, c'est ce qui est encore une fois, vrai, mais ce qui est aussi une manière de se situer à côté de ce mouvement sans prêter le flanc à la critique de le récupérer.
Elle est extrêmement habile. Elle est bien plus habile à la limite que Wauquiez. Dupont-Aignan, j'en parle même pas.
Pour quelle raison ?
Parce que Wauquiez va aller, a-t-il dit, je sais pas s'il ira, mais mettre son gilet jaune sur sa parka rouge. Il sera aux couleurs de Lens, tiens. il ira manifester. Elle va pas y aller. Elle a clairement dit qu'elle n'y allait pas. Elle donne évidemment carte blanche à ses militants pour y aller, mais en disant c'est un mouvement apolitique, je le respecte. Elle est bien plus habile. Ciotti dit qu'il va y aller. Ils ont besoin de. On est vraiment dans une récupération et je pense que les Français qui manifestent vont pas forcément être séduits par cette récupération parce que ils clament sans arrêt mouvement apolitique. C'est totalement inédit, hein, ce qui va se passer quand même samedi. On fait référence avec les bonnets rouges. Je pense que c'est une erreur.
Pour quelle raison ?
Pourquoi c'est inédit ? Parce que c'est
pourquoi les bonnets rouges ne vous paraissent-ils pas comparables à ces gilets jaunes ?
Ben parce que les bonnets rouges, ça a été pris en main par des vrais leaders. En particulier par des leaders régionalistes, le maire de Carhaix, d'une certaine, par les grands patrons du Bretagne.
Donc c'était très associé à une région.
Complètement. Et qui ont utilisé une main-d'œuvre salariée très peu payée pour les mettre en avant de ce qui était leurs propres intérêts. Donc dans les bonnets rouges, c'est totalement
une instrumentalisation
complète, et qu'on a fait passer pour une révolte spontanée populaire et qui a été sérieusement manipulée. Alors celle-là, je peux pas dire encore ce qu'il en est. On peut se poser la question. Moi, je dans les hypothèses possibles, et en étant quand même très très prudent, je pense que ce qui se mobilise, c'est peut-être quand même des Français dans des situations professionnelles d'indépendants, soit par exemple des petits transporteurs qui prennent effectivement de plein fouet l'augmentation du diesel, et puis qui travaillent beaucoup mais qui gagnent pas forcément si bien que ça leur vie, et pour lequel effectivement la situation devient très très difficile. L'idée du blocage, de bloquer les péages, comme c'est annoncé, bloquer certains périphériques, bloquer certains carrefours, cette idée du blocage me fait penser qu'on retrouve des mouvements routiers qu'on a connus il y a quelque temps.
Et oui, parce que c'est quand même, alors, il n'y a pas que le pouvoir d'achat, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de motifs de grogne. Mais au bout du compte, si on prend la voiture, l'augmentation du prix du gasoil, ça représente à peu près 250 euros pour une personne qui utilise sa voiture. Le contrôle technique, c'est important puisqu'il a été de manière assez profonde,
renforcé.
Rendu plus sévère. Et oui, donc c'est compliqué maintenant de passer avec une automobile qui jadis passait très bien le contrôle technique. Est-ce que ces gens-là, justement, ils ne sont pas en colère parce qu'ils sont allés s'installer plus loin des centres-villes pour des raisons de prix de l'immobilier, et aujourd'hui ils ont besoin de leur voiture et cette voiture leur coûte plus cher, Béatrice Gibelin?
Oui, bien sûr, et on a laissé les gens aller s'installer plus loin. C'est qui ? C'est une politique globale d'aménagement du territoire et du logement pour lequel il y avait sans doute à se poser des questions un peu plus sérieusement qu'on ne l'a fait. Donc assurément, on a double peine d'une certaine façon. On a dû aller plus loin, mais c'est aussi le rêve d'avoir sa maison, de l'espace, ça aussi, ça compte. Et puis, au fond, avec la voiture, je suis libre. C'est important aussi, cette idée-là. Je mets mes enfants loin d'une ville peut-être dangereuse ou autre. Donc, il y a tout ça. Et il y a eu une politique de développement des maisons, y compris auprès de petites villes. On va quand même s'installer à l'extérieur de la petite ville. Donc, il est évident que aujourd'hui, quand ils ont 100 km à faire ou 80 km à faire tous les jours, avec un petit salaire, il faut remplir le réservoir régulièrement. Et comme on ne le remplit pas forcément au maximum, parce qu'on va mettre 20 euros, je suis obligée de retourner à la pompe régulièrement pour remettre 20 euros. Donc ça reste... qu'est-ce que c'est cher ? Ah, je suis encore obligée d'en remettre. C'est une permanence. Ça revient tout le temps. Donc je pense que ça pèse beaucoup dans la tête. C'est présent. Et puis comme maintenant les gens savent que bon, d'accord, l'essence est chère, mais elle est surtout chère parce que effectivement l'État taxe considérablement l'essence, ce qui est vrai. C'est incontestable. Ils ont vraiment l'impression, vous entendiez dans votre reportage, on est des vaches à lait. Voilà, hein, on est obligé, on est contraint. Et au fond, là-dedans, il y a une révolte sur l'idée, c'est toujours nous qui payons. On l'entend depuis longtemps, ça. Hein.
Et alors, justement, lorsque l'on entend cette grogne, ce côté un peu pompidolien, c'est-à-dire l'État nous enquiquine, parce que j'ai cité, alors parmi ces revendications qui sont citées par La Croix aujourd'hui, il y a par exemple les vaccins. Alors les vaccins, donc ça c'est une autre polémique, mais en tout cas le cœur du problème, c'est l'État nous impose un certain nombre de contraintes. Qu'est-ce que ça évoque en vous, Béatrice Gibelin, vous qui êtes
ça m'évoque le paradoxe des Français, c'est-à-dire passe souvent grand, une partie des Français, hein, soyons très plus nuancés que ça. L'État nous ponctionne, l'État nous contraint, l'État nous écrase, bon, l'État nous domine, l'État nous méprise, etc., etc. Puis d'un autre côté, à la moindre difficulté, on en appelle à l'État. C'est à l'État de faire, c'est à l'État de dire, c'est à l'État de nous protéger, c'est à l'État... Bon, voilà. Donc, on est sans arrêt, très souvent, dans cette ambivalence. Bon, c'est notre histoire. Les Français, on les dit à l'heure. Un gouvernement doit savoir que des Français sont à l'heure et qu'il faut faire avec.
Est-ce que les Français râlaient pendant les Trente Glorieuses ? Je sais que la réponse est oui, mais justement, si on essaye de voir Béatrice Gibelin sur une période un peu plus longue, comment ces grognes, ces colères françaises se sont exprimées indépendamment presque de la conjoncture, qu'est-ce que vous diriez ?
Regardez, 1956 Pierre Poujade,
avec les
commerçants, hein, qui étaient dans une grogne, encore une grogne antifiscale, très très fortement, hein, avec des formes de révolte qui étaient.
Mais alors pourquoi justement en 56, alors que a priori la situation économique était considérablement plus florissante qu'aujourd'hui, Béatrice?
Mais parce que c'est pas qu'une question de florissante, c'est un sentiment d'injustice, c'est un sentiment, si vous voulez, que les efforts sont mal partagé. Voilà. Et que c'est toujours les petits, et on se met dans les petits, et se mettre dans les petits, c'est déjà une façon de se dévaloriser. Et c'est nous, les petits, qui devons supporter tous les efforts pour que, au fond, les grands, l'élite, ce sur quoi surfe le Rassemblement National, s'en sortent bien. Et c'est cette opposition qu'on fait tout le temps, et qui, à mon avis, et qu'on faisait déjà en 56, si vous voulez, entre les riches et les pas riches. Et là, on fait une opposition entre la ville et la campagne, ce qui me semble toujours une façon trop simpliste de présenter les choses. On continue à dire, ah ben voilà, là on a deux France. On a ceux qui luttent pour les gilets jaunes, et puis on a la réponse sur les réseaux sociaux des opposants, bon, et qui font à peu près jeu égal sur les réseaux sociaux. Mais, et puis il y a toute la masse de ces Français qui sont tiraillés, et moi je pense que cette lecture binaire, si vous voulez, est une lecture dangereuse et qu'on doit essayer, quand on a un peu d'arguments, de calmer le jeu face à ça.
Mais alors, justement parce que ce sont des personnes qui aujourd'hui se mettent en colère en raison donc des ponctions fiscales, des contraintes. En sociologie, on les appelle des petits moyens et ce ne sont pas donc des gens qui sont en marge, ils ne sont pas désinsérés, ce sont au contraire des gens qui travaillent.
C'est les actifs.
Pourquoi justement on a affaire aujourd'hui à ces mobilisations-là? Parce que les bonnets rouges, vous avez dit tout à l'heure, ils étaient instrumentalisés, Béatrice Gibelin, mais c'était eux aussi des actifs.
Oui, bien sûr que c'était eux aussi des actifs. Mais là, franchement, dans le cadre de la Bretagne, ça faisait longtemps qu'on annonçait qu'un certain nombre de types de production, d'élevage porcin ou de volailler, n'allaient plus pouvoir continuer dans les mêmes conditions. Ça fait 10 ans que c'est annoncé. Les patrons n'ont absolument rien fait pour prévoir cet arrêt des aides. Bien. Et c'est parce qu'il y a eu la conjonction de l'écotaxe et de ça qu'il y a eu cette possibilité de mobilisation. Voilà. Peut-être que l'écotaxe, si on avait dit une partie de ce qui va être touché par l'écotaxe revient aux régions, peut-être que ça aurait calmé le jeu plus vite et qu'on aurait gardé nos portiques. Bon, c'est pas le choix qui a été fait en disant pas d'écologie punitive, comme l'a dit Ségolène Royal, ce qui était, à mon sens, une vraie erreur.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Eh bien, parce que je pense que l'écotaxe, compte tenu de la situation géographique de la France, si vous voulez, on a un trafic de camions du sud au nord et du nord au sud qui est extrêmement important et utilisé par tout type de camions. Bon, à partir de ce moment-là, ça a un coût dans l'entretien des routes, donc il était important de taxer ce trafic très important. La Bretagne a dit on est excentré, pour nous c'est la mort. Bon,
il n'y a pas que la Bretagne et les Bretons qui disent que la Bretagne est excentrée.
Bah non, mais bien sûr que non.
Non, mais ça a été pensé comme tel, y compris par De Gaulle lorsqu'il a pensé la France et l'aménagement du territoire après-guerre.
Bien sûr, et qu'il a fait très attention à très bien équiper la Bretagne pour désamorcer un certain type de mouvement qui avait pris une certaine ampleur pendant la période de la Seconde Guerre mondiale pour certains. Ce que les Bretons oublient toujours de rappeler, que leur drapeau a quand même été pensé par des gens qui étaient plutôt collabos et peu sympathiques. Bon, ben, je ferme ma parenthèse.
Donc ça, c'était avant.
Parfois, il est bon de se souvenir d'un certain nombre de choses. Ceci étant, cette écotaxe avait déjà répondait déjà à une vraie question qui est celle de la pollution et des conséquences auxquelles on est confrontés tous. Bon, et là, on a eu un recul. Ça fait maintenant 10 ans qu'on au moins 10 ans qu'on est dans cette préoccupation de pollution atmosphérique. Donc, il y a des aménagements à faire. Le coup près, d'une certaine façon, certains Français ont le sentiment qu'il tombe aujourd'hui, parce que, je dirais, le gouvernement a le courage politique de tenir avec une certaine cohérence ce qu'il a annoncé quant à la lutte contre le réchauffement climatique. Auparavant, excusez-moi, mais on a souvent reculé. Il estime, lui, le gouvernement aujourd'hui, qu'il a été élu sur ce programme-là et qu'il doit donc le tenir.
Le diesel, c'est plutôt les particules fines, puisque oui. Au niveau du réchauffement climatique, c'est plutôt favorable sur l'essence. En revanche, évidemment...
Parce que sur le diesel, on a dit tout et son contraire. Bon, on a dit que c'était très polluant. Après ça, on a dit, ah ben non, mais au fond, maintenant qu'il est bien traité, il est moins polluant. Bon, ce qui est sûr, c'est que les carburants fossiles posent des problèmes majeurs sur le plan... et de la santé et du réchauffement. Donc de toute façon, il va falloir s'en occuper.
Ce qui veut dire aussi que les Français vont être de moins en moins égaux face à la voiture, puisqu'il y a des lieux tels que le lieu où nous sommes, à Paris, Béatrice Gibelin, où la voiture devient un outil encombrant, on aimerait que les gens n'en utilisent plus. D'autres où, en revanche, il n'y a pas d'autres ressources. Et ça aussi, c'est un nouveau clivage français. Ça n'existait pas il y a 20 ans.
Oui, assurément, mais j'allais dire le prix que payent les Parisiens pour se loger n'a rien à voir avec le prix qu'on paye quand on habite en province et qu'une grande partie du revenu des Parisiens ou même d'une partie des Franciliens passe à se loger et c'est heureusement qu'ils peuvent ne pas avoir de voiture parce que s'il fallait qu'ils aient et une voiture et des loyers très élevés, ils auraient aussi la double peine, si vous voulez. Donc c'est des choses avec les lesquels il faut tenir compte.
Béatrice Gibelin, vous êtes géographe, vous dirigez la revue Hérodote. Dans quelques instants, vous serez rejointe par un professeur de sciences politiques à Paris, un Frédéric Savicky, et on va évoquer cette fois-ci la physionomie des mobilisations. Frédéric Savicky réfléchit sur la forme que prennent la colère, les mobilisations des individus. Et puis on va voir ce qui peut advenir de ce mouvement des Gilets jaunes. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Nous retrouvons nos invités, Béatrice Gibelin, géographe, directrice de la revue Hérodote. Vous avez notamment publié Le paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin chez Armand Collin. Et pour continuer à évoquer ces gilets jaunes, nous recevons également Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez notamment écrit Les réseaux du Parti socialiste, sociologie d'un milieu partisan. Et je vous ai invité parce qu'il s'agit encore une fois d'une mobilisation d'un genre inédit à base de réseaux sociaux, à base de colère ou de grogne, très hétérogène. Mais tout d'abord, parlons politique, peut-être dans le prolongement de ce que vient de dire Frédéric Savicky. Est-ce que les Gilets jaunes, ce sont tout simplement des gens qui sont en désaccord avec la politique menée par Emmanuel Macron ?
C'est très difficile à dire pour l'instant. Enfin, ils sont en tout cas en désaccord avec la politique fiscale, ou en tout cas de taxes concernant l'essence. Pour le reste, on ne peut avoir que des présomptions, eu égard à la géographie de ces mobilisations, eu égard aussi aux propriétés sociales de certains porte-parole auto-institués.
C'est-à-dire
Je sais pas, quand on écoute ou quand on regarde qui sont les signataires ou les initiateurs des pétitions qui ont eu lieu, on a plutôt l'impression effectivement d'avoir des gens qui appartiennent on pourrait dire à la droite hein, contestataires ce sont pas des cadres supérieurs, ce sont plutôt des gens qui sont issus des classes moyennes indépendantes donc pour le moment difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde par contre ce qui s'exprime sur les réseaux sociaux, sur les tweets, sur les blogs, sur les pages Facebook, là il y a une colère et une haine, dans certains cas, à l'égard du président de la République qui s'exprime, elle est multiforme et il y a incontestablement effectivement un mouvement qui surfe aussi sur un mécontentement qui est difficile pour l'instant à cerner, c'est-à-dire dans ses conséquences politiques, c'est-à-dire qu'est-ce que ces gens-là, lorsqu'il s'agira d'aller voter, par exemple, aux élections européennes, vont clairement, pourrait dire, signifier leur rejet du macronisme. Pour le moment, disons, les enquêtes disponibles, les observations disponibles ne permettent pas véritablement de le traiter. Ça pourra dépendre aussi de la réponse que le gouvernement va apporter à ce mécontentement.
Frédéric Seize.
Saviki, selon vous, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un symbole de politisation, c'est-à-dire on se prend en main, on se met dans une action collective, ou au contraire de dépolitisation, on ne fait plus confiance aux dirigeants et aux urnes, et on va dans la rue, et en l'occurrence plutôt au rond-point d'ailleurs.
Ça dépend le sens qu'on accorde au terme politisation. C'est-à-dire que là, pour dire, c'est un mouvement à finalité politique, puisqu'il s'agit d'obtenir des pouvoirs publics, soit de renoncer à une augmentation de taxes, soit d'obtenir des compensations. Donc, il y a bien effectivement une intention politique. Après, est-ce que derrière les acteurs qui se mobilisent ont d'autres, pour dire, objectifs que une revendication, pour dire, immédiate, qui est de changer le système politique, de changer de majorité, de changer l'orientation générale? Pour le moment, probablement non, parce que évidemment, comme il y a des formes de récupération partisane de cette mobilisation, les porte-parole refusent en quelque sorte d'afficher des objectifs clairement politiques, mais on n'en sait rien.
Alors justement, à cet égard, on parle de la prise de position d'un certain nombre de leaders de droite vis-à-vis donc de ce mouvement des Gilets jaunes. Il faut également entendre Jean-Luc Mélenchon à ce sujet.
Alors, le 17 novembre, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez en commentant? Non, le 17 novembre est une auto-organisation populaire dont je souhaite le succès. Et je vous le dis, mes amis, il faut souhaiter son succès. On me dit, il y a des fachos là-dedans. Oui, oui, il y en a partout. Et il y a aussi beaucoup de fâchés qui sont pas fachos. Et ceux-là, ils ont raison d'être fâchés. Et moi, qui suis-je pour aller trier sur les bancs? Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet est que cette colère est juste. Que cette colère, elle porte sur quelque chose qui a un sens. Cette affaire d'augmentation des carburants détrousse les braves gens qui vivent de leur travail. Parce que quand on est à 20 km de son boulot, cette affaire coûte 200 euros. Quand on est au SMIC, cela coûte 17% de son salaire d'aller travailler dans ces conditions-là. Alors c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est insupportable, et le peuple a raison de se révolter.
C'était le 8 novembre dernier, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Saviki?
Je pense qu'il est assez en ligne et en cohérence avec sa stratégie qu'il assume comme étant une stratégie populiste et qui consiste effectivement à, pourrait dire, donner raison à l'expression en apparence du peuple, hein, puisque là il y a un mouvement, 800 000 signataires de pétition, etc. Donc c'est compliqué évidemment pour lui de dire ces gens-là ont tort de se manifester, de protester. Hein, donc il est cohérent aussi dans la mesure où probablement dans ces potentiels électeurs, il y a des gens qui ont de la sympathie pour lui en partie, ou qu'il espère pouvoir conquérir. Donc là, je veux dire, bon, voilà, c'est une affaire compliquée.
C'est quand même quelque chose d'assez nouveau, d'une part, parce que généralement, à gauche, on n'a pas de discours contre les taxes. Mmh. Ensuite, parce que a priori, il y avait plutôt un virage vert chez Jean-Luc Mélenchon.
Oui, tout à fait.
Alors ensuite, on peut considérer que la taxe sur le diesel est hors sujet par rapport à l'écologie, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il faut articuler.
Ah, disons que dans l'extrait,
Béatrice Gibelin.
Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a une partie de ces troupes est proche, je pense à Ruffin, qui appelle à manifester très clairement en disant on ne va pas laisser ça à Marine Le Pen. Mmh. C'est quand même aussi ça la position de Mélenchon. Ben, ça veut dire qu'ils sont très conscients que ce qu'ils voudraient être leur électorat, c'est-à-dire un électorat vraiment populaire et en difficulté économique et sociale, n'est qu'une partie de l'électorat de Mélenchon, bien évidemment, puisqu'on sait aussi qu'il a un électorat de gens formés, on va même dire intellectuels, pour certains. Bien. Donc, leur discours fait qu'ils doivent accompagner ça. Et il est dans cette contradiction. Réelle, il a dit je les soutiens, mais moi j'irai pas. Alors que Ruffin a dit il faut qu'on y soit. Donc il y a aussi des tensions à l'intérieur de la France insoumise là-dessus.
La difficulté va être de qu'est-ce qu'on propose. C'est-à-dire que évidemment par rapport à ces positions quand même clairement en faveur du développement durable, en faveur de mesures écologiques, là on va attendre en quelque sorte Mélenchon dans la phase 2. C'est bon maintenant, ok, qu'est-ce que vous proposez? Et là, je pense que les difficultés peuvent venir beaucoup plus, de manière beaucoup plus aiguë que pour le moment où, on reconnaît qu'il y a une colère populaire.
Il faudrait qu'il y ait une phase 2 aussi. Hein.
C'est ça. Frédéric Saïs.
Ça va être ça qui va être le plus compliqué, c'est sans doute le jour d'après, des deux côtés d'ailleurs. Du côté du gouvernement, avec qui négocie-t-il? Il n'y a pas de représentant élu, il n'y a que des personnalités qui ont fait plus ou moins le buzz, comme on dit, avec des vidéos virales ou des tribunes enflammées. Mais sont-ils des négociateurs pour autant? Sont-ils légitimes pour représenter tous les gilets jaunes? Qui sont les gilets jaunes? Et justement, il y a aussi beaucoup d'hétérogénéité dans ce mouvement. Quand on regarde les vidéos, il y a des courants qui empruntent à Poujade, c'est-à-dire avec des intérêts catégoriels, c'est mon plein, c'est mon portefeuille, etc. Et puis des méfiances vis-à-vis de l'État, les politiciens trop payés, c'est ce qu'on voit, qui nous détroussent. Et puis il y a aussi un petit côté sorrow, si on peut dire, de méfiance vis-à-vis de l'État centralisateur qui nous oppresse, la désobéissance, organisons-nous en communauté ici, on sera plus tranquille. Tout ça chauffé à blanc, paradoxalement, par le réseau social américain numéro 1 de 2 milliards d'utilisateurs Facebook.
Et oui, mais alors, avant justement d'en venir à cette forme nouvelle de mobilisation via donc les réseaux sociaux, Frédéric Savicky, est-ce que tout simplement ça ne peut pas s'interpréter du fait même que Emmanuel Macron a été élu avec un quart des voix, et bien 75% des Français sont hostiles à cette politique et ils sont là aujourd'hui?
Je crois qu'il y a plusieurs choses qui interviennent dans le succès pour le moment de ce type de mobilisation. Il faudra revenir tout à l'heure sur évidemment l'importance des réseaux sociaux qui permettent aujourd'hui effectivement de mobiliser de manière très peu coûteuse 800 000 signataires d'une pétition. Alors après, c'est ce que ça se traduit en acte et dans la durée, ce sera effectivement à voir. Mais il y a effectivement, on pourrait dire, une réaction probablement par l'attitude du gouvernement qui effectivement, bon, c'est ce que disait Frédéric hier ou avant-hier, contourne, voire méprise les partenaires sociaux, les organisations syndicales, mais aussi tout un certain nombre d'associations qui se plaignent de ne plus avoir d'interlocuteurs. Il y a probablement, au-delà des électeurs, un réseau de militants ou d'adhérents d'En Marche dont la géographie, pour le coup, ne correspond pas du tout à cette France-là. Hein. Et là, c'est peut-être plus intéressant de regarder cette géographie-là que la géographie des électeurs. Dans l'enquête Terranova Sevipov, il apparaît que 40% des adhérents d'En Marche vivent en Île-de-France et 30% à Paris. Donc évidemment, les capteurs de cette France-là, on pourrait dire, En Marche ne les a pas. Les élus locaux qui, dans les partis dits traditionnels, font remonter les mécontentements et qui permettent aussi, éventuellement d'ailleurs, d'adopter des mesures qui atténuent la portée des mesures gouvernementales. Aujourd'hui, Macron se tourne vers les présidents de région pour leur dire « aidez-moi ». Mais les présidents de région sont vent debout, comme les présidents de département, comme les maires, depuis le début du quinquennat, parce qu'ils s'estiment effectivement lésés à cause de la disparition de la taxe d'habitation non compensée. Voilà.
Donc c'est bien une situation de minoritaire politique.
C'est une situation minoritaire, mais qui ne tient pas, je dirais, uniquement au fait qu'il est élu sur une base électorale restreinte, c'est qu'il n'a pas non plus les relais dans la société française, ou en tout cas les relais qu'il a ne lui permettent pas de toucher plus particulièrement cette France-là. Et évidemment, ça se paye, et ça se paye probablement déjà par des reculs, par des négociations, mais qui vont être effectivement difficiles à mener.
Béatrice Giblin, vous en pensez quoi?
Qu'il est effectivement dans cette difficulté-là, mais que je pense que les partis de gauche comme de droite n'ont pas non plus aujourd'hui véritablement le relais. Il y a une défiance extrêmement large vis-à-vis de tous les partis politiques. Et c'est pas seulement un phénomène lié à La République En Marche. Le fait d'absence d'élus locaux les met dans une situation évidemment un peu hors sol, je vais dire, incontestablement. Mais franchement, il y a aujourd'hui, comme vis-à-vis des syndicats, la faiblesse syndicale, le rejet syndical d'un grand nombre de Français, fait ils ne nous représentent plus, ils ne nous défendent plus, que ce soit les partis ou que ce soit les syndicats. Ce qui me semble effectivement une situation grave, sur le plan, vous voyez, de la gestion démocratique bien menée, bien, en disant bon, on va passer à une démocratie participative, une démocratie directe. Mais là, j'allais dire, on ouvre une sorte de boîte de Pandore avec un certain nombre de mauvais génies dont on n'est pas sûr de savoir les faire rentrer dans la boîte quand ce sera le moment.
L'autre chose qui est assez frappante lorsqu'on voyait l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron et les réactions qu'elle a suscitées. Alors c'est toujours compliqué de savoir dans quelle mesure ces réactions sont représentatives, dans quelle mesure les gens qui viennent voir le président et le conspuer représentent un mouvement politique ou bien ne représentent qu'eux-mêmes. Mais il y avait des réactions extrêmement dures. Il y avait des propos qui étaient lancés au chef de l'État qui étaient particulièrement radicaux, Frédéric Savicky.
Oui, je lisais dans La Voix du Nord d'hier une tribune écrite par les journalistes de La Voix du Nord qui disait: nous avons été obligés de censurer les sites internet du journal tellement il y avait non seulement des colères qui s'exprimaient, mais des appels à la haine, voire à la violence. Ça, c'est incontestable. En même temps, quand on regarde cette itinérance dont vous parliez, ce qui est frappant, c'est pas tant uniquement le fait que de petits groupes sont venus exprimer leur colère, c'est la très faible participation aux mobilisations de soutien. C'est-à-dire que dans ces déplacements dans le nord de la France, il y avait 30, 40 personnes qui venaient voir au petit matin éventuellement Emmanuel Macron. Lorsqu'il a fait venir dans un bistrot de Buis-les-Mines quelques personnes triées sur le volet pour les interpeller, les faire s'interroger, personne n'osait à cause de la caméra lui poser des questions alors que c'était des sympathisants d'En Marche. Donc je pense que là, il y a effectivement un vrai problème de divorce, de communication, mais de communication pas simplement de communication au sens élyséen du terme ou versus on pourrait dire communicateur politique, vraiment d'incapacité à se comprendre. Et évidemment, ça c'est pas moi, c'est pas nouveau, mais dans une situation de crise comme celle-là, ça prend des proportions extrêmement spectaculaires.
C'est pas nouveau, mais alors on l'a vu avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy, il y a eu un décrochage, un moment même où il était compliqué pour ces présidents d'aller dans la rue sans avoir des scènes de Français mécontents. Est-ce que c'est plus précoce? Est-ce que c'est plus important que pour les présidents précédents? Votre point de vue, Frédéric Seize?
Ça semble une tendance de long terme, évidemment, qu'on retrouve dans les sondages, la défiance qui se poursuit d'année en année. Ce qui est peut-être différent avec Emmanuel Macron, c'est qu'il paye toute une série de maladresses ou de prises de position un petit peu hasardeuse sur ce côté France qui va bien, France qui va mal. Et il y a beaucoup de phrases qui ont été retenues dans ces territoires en colère qui sont à mettre à son débit, au-delà de l'histoire des carburants qui est plutôt le détonateur. Quand il parle de ceux qui ne sont rien, quand il au contraire vante la Startup Nation, ça ce sont des choses qui paraissent pour un certain nombre de Français complètement éloignées de leur quotidien et où ils se disent finalement ce président-là n'a pas à l'esprit ma propre vie. D'ailleurs l'Élysée commence à le dire, oui on reconnaît qu'on n'a pas été assez attentif à la vie quotidienne des Français. Et d'ailleurs, c'est ce que Gérard Collomb, qui lui était quand même encore implanté du côté de Lyon, a dit dans son interview quasiment testament à l'Express: attention, les gens ne comprennent rien à ce qu'on raconte et les gens se sentent méprisés, ils se sentent loin de nous. Alors après, ce mouvement, il a été comparé à plusieurs choses qui sont, à mon avis, difficiles à mettre sur le même plan. On a parlé des bonnets rouges. Pour le coup, les bonnets rouges, c'était beaucoup plus organisé. Il y avait quand même une partie du patronat breton derrière qui avait coalisé des troupes. Il y avait évidemment des chauffeurs routiers, mais qui étaient dans un mouvement d'ensemble. C'était assez bien marketé, comme on pourrait dire, dans un très mauvais français. On a parlé de Nuit Debout. Alors là, c'est presque l'inverse. Nuit Debout, il y avait beaucoup moins d'intérêt direct, catégoriel, monétaire, financier. C'était une sorte de chose indéfinie pour réfléchir à l'avenir avec un grand A de la société française. Là, on est sur du concret. C'est 6 centimes de plus sur le litre de diesel. Et ça continue. Ce que je voudrais juste dire pour finir, c'est qu'au 1er janvier 2019, il y a à nouveau une hausse qui arrive de 6 centimes sur le diesel, de 3 centimes sur l'essence. Autrement dit, le gouvernement n'en a pas du tout fini avec ce sujet.
Béatrice Giblin.
Pour aller dans le sens de Frédéric, l'une des premières considérées comme leader, mais avec beaucoup de prudence, c'est-à-dire qu'avez-vous fait du pognon? C'est-à-dire, reprenant l'expression « un pognon de dingue », qu'est-ce que vous faites du pognon? Ça me semblait très révélateur, justement, du sentiment d'être méprisé. Je crois qu'il y a deux moteurs dans cette mobilisation, le mépris et l'injustice. Voilà. Et c'est toujours nous qui devons payer. Alors, la question qui me semble très importante, et ce qui est soulevé, mais c'est quid demain? qu'est-ce qui va se passer quand on entend des gens dire « alors je prends mon duvet, j'ai pris 8 jours parce que je vais rester mobilisé, je prends 8 jours de vacances hein. ». C'est quelque chose de tout à fait surprenant quand même. Et là, il faut entendre. Dernier mot, vous savez, ne pas savoir parler, je veux dire, itinérance mémorielle, je voudrais bien savoir qui a bien compris hein, la formulation pour le plus grand nombre de gens. Et il y en avait d'autres de termes à prendre. Il fallait le trouver quand même, celui-là.
Frédéric Savicky, alors là, c'est compliqué parce que ces mobilisations, elles sont inédites. Et vous êtes, vous, en sciences politiques, coutumier de l'analyse des mouvements de mobilisation collective. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce qui est en cours et ce qui pourrait avoir lieu le 17, après le 17 novembre ?
Alors c'est inédit. Alors d'abord en France, c'est inédit parce que c'est des automobilistes. C'est-à-dire l'automobiliste, c'est une catégorie qui est une catégorie administrative ou une catégorie au point de l'entendement ordinaire, mais ça n'existe pas comme groupe social. Et donc quand il y a eu des mobilisations par le passé qui ont pris pour objet le prix de l'essence, c'était des chauffeurs de taxi, des chauffeurs poids lourds. Bon voilà, c'était des professionnels, des gens qui se connaissaient, qui étaient structurés. L'exemple cité des bonnets rouges est un parfait exemple. Donc les révoltes antifiscales, en général, elles partent de groupes qui sont déjà préconstitués, qui ont des objectifs très précis. Là, ça, c'est un appel à tous, donc c'est clairement, pour dire Facebook, qui rend ça possible. Alors après, le problème de l'après, si on peut dire, c'est que évidemment, comme ce groupe n'existe pas, il n'a pas de porte-parole. Alors il y a des porte-parole, hein, les journaux automobiles, les automobile clubs, mais alors c'est des organisations, effectivement, aujourd'hui complètement, largement déconnectées, on pourrait dire, du terrain. Donc le problème de cette mobilisation, c'est après, si elle réussit au moins à mobiliser des gens le 17, ce qui est assez probable, même si ça se heurte à des vrais obstacles, on pourrait dire, juridiques, hein, il faut déclarer les manifestations, on se heurte aux forces de l'ordre, ça peut faire peur, et le gouvernement, d'une certaine façon, est assez judicieux aussi d'alerter sur les dangers, sur les risques que ça encourt. Mais derrière, c'est, bon, qui va capitaliser? Il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas d'organisation. Est-ce que ces acteurs sont capables de faire ce qui s'est déjà vu dans d'autres circonstances, mais souvent avec des groupes professionnels, de mettre en place des réseaux, pour dire, durables, avec des porte-parole élus, des représentants, des leaders capables, effectivement, de venir négocier avec les pouvoirs publics? C'est ce qui explique aussi, pour l'instant, pourquoi il y a autant de récupération politique, puisque un mouvement sans tête, hein, pourrait dire, est aussi décentralisé dans son organisation, autorise d'une façon tout le monde, tous les gens qui ont un peu autorité, ça peut être des intellectuels, ça peut être des syndicalistes au besoin, ça peut être des politiques, à se dire, mais nous on soutient et puis on s'auto-institue en quelque sorte comme leur porte-voix. Hein. Donc c'est un vrai, là pour le coup, c'est une vraie faiblesse, parce que cette mobilisation-là, alors, elle peut faire complètement pchit. Alors, ceci dit, elle aura peut-être des résultats, elle en a déjà. Hein, donc, c'est peut-être pas forcément l'objectif en soi de créer une organisation durable. Mais c'est, on pourrait dire, la force de cette mobilisation est aussi, on pourrait dire, sa grande faiblesse pour le moment.
Béatrice Giblin, vous en pensez quoi ?
Ben moi, je pense qu'il y a une donnée dont on n'a pas dit un mot encore, c'est que les femmes sont dans cette mobilisation. Et que parmi les premières à avoir manifesté, celle qui dit « qu'avez-vous fait du pognon ?» c'est une femme.
Jacqueline Moreau, quinquagénaire bretonne.
Voilà, bien. Et puis, il y a une autre jeune femme.
Priscilla Ludovski,
voilà. Qui a lancé la pétition. Et elle est c'est une indépendante qui a une entreprise de cosmétiques bio, donc on peut dire sensible aux questions d'écologie, et qui sont dans une défense de leur propre... j'allais dire vie quotidienne et conditions de vie quotidienne, et ça pour moi c'est quand même un phénomène nouveau, parce que quand même la voiture, on y voit plutôt des hommes, regardez comme ils les bichonnent le samedi, leur voiture, s'ils bichonnaient leur femme aussi bien, ce serait merveilleux. Oula. Mais ils sont très très sur leur voiture, et là on a des femmes qui se mettent à et qui sont pas forcément dans la défense de leur voiture, qui sont dans la défense de leur vie quotidienne qui est déjà extrêmement difficile. Alors je ne crois pas vraiment à ce que ça puisse durer dans le temps, parce que je vois pas, les syndicats vont pas récupérer, parce que comme ils sont quand même pour un certain nombre de taxes, la CGT l'a clairement dit d'une certaine façon, la CFDT n'ira pas non plus, donc je vois pas les syndicats. C'est un mouvement qui ne veut pas être récupéré par les politiques. Donc je vois pas LR véritablement récupéré. La seule qui peut engranger dans ce qui va être les prochaines élections des européennes au mai 2019, c'est Marine Le Pen.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'elle, depuis longtemps, elle traite ce thème. Elle traite le thème des petits, le thème des méprisés, de l'injustice. C'est son credo.
La France oubliée.
La France oubliée. C'est son credo depuis... C'était moins le credo de son père, mais c'est vraiment le sien. Et je pense qu'elle est d'une prudence et d'une habileté en ce moment, ce qui n'est pas le cas des gens de LR de mon point de vue. Et je pense que c'est elle qui va engranger, si ça continue, mais je vois vraiment pas ce coup de gueule, au fond, devenir un mouvement politique un peu dans la durée.
Mais Frédéric Saviquet, est-ce que ça n'est pas aussi la conséquence du positionnement politique d'Emmanuel Macron qui dit en substance ce sont les populistes ou nous ? Les populistes ou moi, est-ce que, pour le coup, si ce mouvement devait profiter à quelqu'un, est-ce qu'il n'irait pas logiquement vers le Rassemblement national ou vers une forme de ce que Emmanuel Macron désigne comme étant des mouvements populistes ?
Je pense que beaucoup de Français, et notamment ceux qui se mobilisent là, voient pas très très bien qu'est-ce que ça veut dire populiste. Et je pense que ce qu'ils voient d'abord quand même dans la politique du gouvernement, c'est sa politique fiscale et sa politique économique. Alexis Spire a publié récemment un excellent livre, c'est « Résistance à l'impôt, attachement à l'État », dans lequel il souligne effectivement à quel point quand même beaucoup de Français aujourd'hui, s'ils résistent à l'impôt et aux taxes, c'est qu'ils ont le sentiment que cette fiscalité n'est pas seulement opaque, mais qu'elle est injuste et que ils n'en ont pas pour leurs impôts, hein. C'est-à-dire qu'ils voudraient d'autres services publics. Et là, on voit bien effectivement que cette réaction, alors il serait intéressant de le vérifier, mais enfin les décisions prises concernant la politique fiscale et l'allègement des impôts des plus riches ne peut être ressentie par les contribuables qui subissent des taxes uniformes comme une incroyable injustice. Et en plus, on les culpabilise en disant que ils n'avaient qu'à pas acheter de voiture diesel, ils n'avaient qu'à pas aller habiter là où ils habitent et puis à trouver un... Voilà. Donc, je pense que là, c'est plutôt ça que les Français perçoivent là-dedans. Et la position initiale prise par le gouvernement, et il y a les deux positions maintenant, mais qui est quand même une position de fermeté en disant c'est comme ça, on assume. Bon, c'est sans doute, on pourrait dire, courageux vu de Bruxelles ou vu de Wall Street, mais vu de là où les gens vivent et où ils ne peuvent pas faire autrement, effectivement, c'est perçu comme une incroyable forme de mépris. Et d'injustice. Et donc, il renforce d'une certaine façon ce sentiment d'injustice. Et du coup, évidemment, ça veut dire que pour l'avenir, on parlait tout à l'heure des augmentations prévues en janvier de ces taxes-là, mais aussi de tout un certain nombre de taxes. Le gaz a augmenté de 20% quand même depuis le 1er janvier 2008. On se mobilise difficilement contre l'augmentation du prix du gaz. Mais tout ça pèse sur le pouvoir d'achat de beaucoup de gens. Et ils ont l'impression, effectivement, qu'en contrepartie, ils n'ont pas une amélioration de leur qualité de service public et de leur niveau de vie.
Frédéric Saïs. Et justement, dans le champ politique, François Ruffin, hier, s'est payé un franc succès à la tribune avec une tirade qui était « Rends l'ISF ». Autrement dit, Emmanuel Macron, le peuple est prêt à tout accepter, mais il y a effectivement cette injustice presque fondatrice du début de quinquennat avec la disparition de l'ISF tel qu'on le connaissait, qui a été recentré sur un impôt immobilier. Dans le champ politique, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a eu une instrumentalisation quasiment à tous les étages. Il y a évidemment Marine Le Pen qui est très prudente, qui sait que si elle soutient trop le mouvement, elle lui fait perdre des plumes, donc elle se garde bien de dire qu'elle sera là avec son gilet jaune. Mais dans le même temps, le gouvernement instrumentalise aussi beaucoup cette question de l'extrême droite en disant « Vous avez vu, le Rassemblement National soutient ces blocages, donc si vous êtes dans ces blocages, c'est en un sens que vous êtes récupéré », le mot est utilisé par Marlène Schiappa, notamment dimanche, sur France 3, « Vous êtes récupéré par l'extrême droite, vous êtes, entre guillemets, un fasciste si vous allez bloquer tout ça. » Or, malheureusement ou heureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment.
Un mot de conclusion, Béatrice.
Moi, je pense que la seule attitude, et c'est en fait le Premier ministre qui, je crois, sait trouver le ton, c'est lui qui a fait les annonces ce matin, mais c'est celui de la fermeté. Et je maintiens qu'une grande partie des Français aiment cette fermeté, malgré toutes ces contradictions et toutes ces difficultés. Et je pense que c'est lui qui tient la barre dans le bon sens.
Un mot de conclusion, Frédéric Saviquet.
Excusez, les Français aiment la fermeté quand elle est juste. Ce sera ma conclusion. Et donc là, toute la question maintenant pour le gouvernement, c'est de montrer qu'il est capable d'imposer une taxe qui soit juste, c'est-à-dire qu'il ne pèse pas de la même façon sur des gens modestes comme sur des gens aisés.